Variation en noir. Roman noir sur Radio PFM. Et littérature policière au pluriel. Variation en noir, rendez-vous mensuel dans Variation. Guy Le Polarski au micro, vous écoutez Radio PFM et vous avez rendez-vous avec les littératures policières. Variation en noir, c'est une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, en particulier avec un membre éminent de cette association, Hervé Delouche, qui est avec nous au téléphone depuis la capitale. Hervé, bonjour.
Eh bien, bonjour Guy, bonjour à toutes et tous.
Sommaire assez simple aujourd'hui, Hervé. Gallmeister et encore Gallmeister. Un éditeur que nous apprécions particulièrement dans Variation en noir, un éditeur tourné vers les États-Unis, mais qui s'ouvre à l'Europe. Nous allons évoquer quelques-unes des publications de l'année écoulée avec un focus sur deux auteurs emblématiques d'un renouveau noir américain, Chris Offutt pour Les Fils de Shifty et Benjamin Whitmer pour Dead Stars. Hervé, Gallmeister, un sacré pari éditorial, mais un pari réussi, hein, puisque bon, voilà, les éditions Gallmeister, dirigées par Oliver Gallmeister, se sont fait une place dans les littératures d'une manière générale et le roman noir en particulier, Hervé.
Oh bah tout à fait. Quand Gallmeister a créé sa maison, effectivement, il disait quand même beaucoup que ça marcherait pas parce que des auteurs américains, tout était découvert, il y en avait partout et tout ça. Or, il a, c'est plus la peine même de le démontrer. Il a fait la preuve que il y avait effectivement beaucoup à découvrir. En sont la preuve les Gabriel Talent, Tiffany McDaniel, etc. Enfin bon, les gros succès de la maison, mais aussi plus récemment Le Silence de Denis Liane, par exemple. Et il est évident que, par exemple, en dehors de la collection mère, mais la collection Totem, qui est la collection de poche avec des dessins et beaucoup de couleurs, à chaque fois c'est vraiment des jolis livres à mon avis.
Oui.
Et il est évident que l'amateur de romans noirs ne peut qu'y trouver son bonheur dans ces rééditions, puisque chez Totem, tout récemment, par exemple, le Silence de Denis Liane vient d'être repris en poche. Mm-hmm. On trouve aussi il a également repris Gallmeister et avec l'aide de Benjamin Guéris, Daniel Woodrell avec le oui. Winter's Bone qui était paru en Rivage Noir à l'époque et qui a donné un film, je ne sais plus quand, vers 2010, je crois, qui avait été magnifique, un bouquin qui se passe avec une adolescente dans une vie dure dans les Ozark Mountains.
Il y a un lien d'ailleurs, Hervé, entre Gallmeister et Rivage, enfin le Rivage de François Guérif, bien sûr.
François Guérif qui apporte des projets maintenant chez Gallmeister, mais aussi le fait que même à l'époque, même quand il ne se connaissait pas personnellement, Oliver Gallmeister a toujours dit que son admiration devant l'éditeur qui était Guérif et devant le catalogue que Guérif avait construit chez Rivage Noir. Voilà, ça c'est... Donc la filiation est tout à fait réelle et tout à fait légitime en même temps.
Tu évoquais la collection. Donc actuellement, grosso modo, il y a deux collections. Il y a les grands formats fiction et puis collection de poche Totem. Oui. Bon, là c'est l'été qui arrive, hein, de vraiment des bonnes lectures possibles. Tu citais Woodrell. Moi j'avais noté aussi deux sorties là, en début d'année 23-24 en Totem, Larry McMurtry nos amis seront des inconnus. Et puis quelque chose aussi, la réédition de James Crumley.
C'est pareil, Oliver Gallmeister qui a toujours été un fin lecteur, il y a évidemment, on a dit l'importance de Rivage Noir, mais il a aussi découvert Crumley chez différents éditeurs, et notamment c'est dans la série noire. Mais c'est là aussi qu'il a découvert Chris Offutt, dont on va parler tout à l'heure, puisque Chris Offutt avait été découvert par Patrick Reynal et publié dans La Noire à la fin des années 90. Et puis il y a cette volonté, et ça on ne peut que le saluer, de Gallmeister d'avoir une politique systématique de réédition, retraduction, et d'avoir l'intégralité d'auteurs qui ont compté en littérature noire et en littérature tout court d'ailleurs, mais comme aussi bien l'américain Ross Macdonald, le grand oublié du trio avec Dashiell Hammett et Raymond Chandler, et que l'italien, ce qu'on appelle le père du polar italien, du giallo, c'est-à-dire Giorgio Scherbanenko, dont Totem ressort là, Les Enfants du Massacre, voilà, et ça se terminera le cycle de Duca Lamberti, son médecin enquêteur, et tout se terminera avec Les Milanais tuent le samedi, qui paraîtra bientôt. Enfin, voilà, et ça, c'est vraiment cette volonté de rééditer et retraduire elle se voit aussi avec la ressortie de deux livres de l'allemand, du suisse allemand, oui, Friedrich Dürrenmatt, La Panne, qui est connue, et La Promesse, qui l'est un peu moins, qui sont à chaque fois repris et retraduits.
Donc des découvertes et des redécouvertes, hein, vraiment une collection Totem très riche, et voilà, hein, quand on cherche des livres de poche là, embarqués pour l'été, on peut y aller les yeux fermés, j'ai envie de dire. Moi, il y a un bouquin aussi chez Gallmeister là, qui est sorti cette année, que je recommande, hein, en lecture d'été, entre guillemets, c'est le David Van, La Contrée Obscure, vraiment un roman d'aventure. Ça se passe dans les années 1530, avec l'histoire d'un conquistador espagnol, Hernando de Soto, qui arrive dans ce qui deviendra la Floride, et qui s'en proclame gouverneur officiel, qui va se confronter aux populations autochtones, et notamment les Indiens Cherokee. Vraiment un livre d'aventure, mais aussi une réflexion sur les conquêtes espagnoles des terres américaines. Vraiment beaucoup beaucoup de choses, hein, chez Gallmeister. Alors Hervé et nous avons retenu deux romans sortis récemment. Alors d'abord Chris Offutt, Les Fils de Shifty. Bon, Chris Offutt, on en a déjà parlé dans cette émission, et avec ce livre on retrouve Mike et Linda. Mike qui est un militaire, mais un militaire un peu particulier, c'est un policier militaire, et Linda, donc sa sœur, qui elle est shérif de Rock Salt dans le Kentucky. Chris Offutt, c'est le Kentucky, et donc on les retrouve puisque on les avait déjà croisés dans un précédent roman. A priori ce serait une trilogie, et c'est vraiment intéressant. Alors, il y a un point commun avec l'actualité. C'est un peu anecdotique, mais nous sommes en pleine campagne électorale dans les fils de Shifty.
Oui,
puisque
la sœur de Mick Hardin, Linda, elle fait campagne pour être réélue shérif.
Voilà, c'est ça. Hein, et donc, voilà. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, les shérifs, donc les chefs de la police locale, sont élus. Et c'est vraiment une campagne politique, Hervé.
Ah ben oui, complètement. Elle fait du porte-à-porte. Mmh. Elle obtient ou pas le droit de planter sa pancarte sur la pelouse devant les maisons des gens qu'elle va visiter. Enfin, voilà. Oui. Et puis, elle essaie de battre un concurrent ultra macho. Et voilà. Mmh. Donc, oui, absolument.
Ouais, un personnage attachant, cette shérif, Linda.
Et aussi la
place des femmes, encore une fois. Voilà, une femme qui joue un rôle important dans ce roman.
Elle joue un rôle important, de même que dans un tout autre genre, Shifty, donc...
Oui.
Qui va embaucher, qui est une espèce de personnification d'un certain matriarcat, comme ça, dans ces zones rurales et montagneuses, et qui en gros va embaucher notre vétéran qui revient d'une mission en Afghanistan, l'ami Cardine, pour à cause de la mort d'un de ses la première mort d'un de ses fils.
Voilà. Et donc on se laisse avec Chris Offutt, hein, mais voilà, on le savait, mais là ça marche à nouveau. On se laisse complètement entraîner par des vivrets, on peut le dire,
oui.
Par la nature aussi. Hein, on est pas loin des Appalaches.
C'est une des choses absolument remarquables chez Chris Offutt, c'est qu'il y a des personnages forts, évidemment, qu'on aime, auxquels on s'attache en tout cas, qui sont complexes, hein, c'est pas des gentils contre des méchants, mais il a une façon unique de les mettre en scène dans une nature sauvage, celle du Kentucky qu'il connaît bien puisqu'il en est natif, mais voilà, par exemple, il quitta la maison au bout de Lyons Avenue et partit d'un bon pas. Dans plusieurs jardins du voisinage, des buissons de forsythia resplendissaient d'un jaune radieux dans le soleil printanier, leurs rameaux déjà teintés de vert sur les bords. Les jonquilles étaient en fleurs. Sur la colline surplombant la rue, il voyait la brume des greniers rouges et quelques cornouillers roses. Les collines étaient magnifiques en toute saison, surtout au printemps, quand la terre offrait tant de promesses et d'espoir. Leur beauté le submergea. Sa vie avait été chamboulée au plus haut point, et il était là à panser ses plaies sous le toit de sa mère, au bon soin de sa sœur revêche. L'absurdité de la situation le réjouit momentanément.
Alors, une nature, Hervé, tu l'as évoqué avec cet extrait, mais une nature confrontée au crime organisé autour du traitement de déchets très très toxiques. Il y a en fond de ce roman la question du gaz de schiste et l'exploitation de ce gaz de schiste aux États-Unis qui malmène vraiment l'environnement. Et donc, il y a un lien. Alors, bien sûr, il y a la dérive d'une partie de la population, la drogue, etc. Mais cet aspect-là est vraiment très, très présent et prenant dans le roman de Chris Offutt. Et tu l'as évoqué. Bon, c'est vrai, quand on lit Offutt, on se dit, mais bon, il y a une simplicité de l'écriture. Et finalement, l'écriture, on l'oublie, on rentre complètement dans l'histoire. Mais ça ne veut pas dire une écriture facile, mais plutôt vraiment la maîtrise d'une fluidité narrative vraiment appréciable. On se laisse complètement embarquer dans ce livre.
Ben complètement, les romans de Chris Offutt, c'est ça. Depuis les nouvelles que Renal avait découvertes de Kentucky Straight en 1999, jusqu'à Le Bon Frère, enfin c'est des livres que d'ailleurs Totem a repris, hein, mmh. et, et revu, en tout cas, ou retraduit, ça dépend. Mais après, jusqu'au roman, puisqu'il y a eu tout un silence, Christophe Huth a travaillé pour des séries comme Trémé, voilà. Et puis après, il est revenu à l'écriture pour notre plus grand bonheur, puisqu'en fait, 20 ans après, Christophe Huth est revenu en pleine forme littéraire.
Oui.
Et effectivement, on entre dans ses livres et... alors que c'est tout sauf des page-turners, comme on le dit, avec suspense et tout, en fait, on n'en décolle pas.
Des page-turners, Hervé, hein, donc, des livres, des page-turners.
Oui,
Alors, comment on pourrait traduire ça
Écoute, je sais pas, c'est le page-turner, je suis désolé de cet anglicisme, mais c'est des livres qui sont, qu'on ne lâche pas, ça, il y en a depuis, c'est pas à toi que je vais les lire, depuis Hugo et Dumas, on sait bien qu'il y a des livres qu'on ne lâche pas, mais c'est la bonne littérature, mais c'est surtout un concept éditorial qui est de fabriquer des livres dont le suspense fait qu'on continue, on continue, on continue.
Après, construit un peu comme des feuilletons, des séries. Ouais.
Christophe Huth ne fonctionne pas à ça, et nous non plus.
Bon, écoute, je pense que les fils de Shifty, hein, on le recommande fortement, Hervé.
Ah oui, tout à fait, tout à fait. Ça, fortement, fortement, et c'est intéressant, mais ça va faire une, de toute façon, ça va faire une transition parce que ce soit Christophe Huth au Kentucky ou Benjamin Whitmer plus à l'ouest au Colorado, ce sont on est dans cette Amérique qui n'est pas forcément celle, qui en tout cas n'est pas celle de New York ni de Los Angeles, qui n'est pas celle des grandes métropoles, mais plutôt celle qu'explore aussi Gallmeister depuis le départ, des grands espaces sauvages.
Have you ever been to Little Rock? Have you ever been to Little Rock? Those Arkansas women, born with beauty and grace, up in the Ozark Mountains, the one they call Betty Jean. You can see God's country put a smile on your face. It's the land of my family, down in Cleveland County. It's where my mama and daddy were born, where the singing pines grow. They got some hot spring water down in the Washita country. Wash away your misery, you feel like Henry Ford. The scenic highway, shake the hand of a farmer, have a cool watermelon that weighs 100 pounds, and in the Mississippi Delta land, they're growing rice and cotton, in the fields all week long, Saturday night in town. Yes, I love my people, and I'm proud of my raising. Sweet Arkansas memories until they leave me down. Have you ever been to Little Rock? Have you ever been to Little Rock? Those Arkansas women, born with beauty and grace.
Vous écoutez Radio PFM, Variation en noir. Es-tu déjà allé à Little Rock, Hervé?
Non, mais je dois dire que le morceau que tu as, je ne sais pas de qui il est, le morceau que tu as passé.
Alors, c'est Johnny Cash, songwriter. Oui. C'est un disque qui vient de sortir avec quelques inédits.
D'accord.
Et donc, alors, on est entre le Kentucky.
Oui. Johnny Cash, ça m'a beaucoup ému parce que ça m'a rappelé, je suis désolé, c'est un truc perso, mais c'est en rapport quand même. Une grande émotion, ça a été il y a quelques années, il y a 5 ans, on était au Goéland masqué et il y avait Chris Offutt, justement. Et avec Roger Elias, on le faisait parler. Et la petite surprise de la fin, c'est qu'il y a un chanteur et musicien qui est venu jouer et chanter un morceau ou deux morceaux de country, hein, de Johnny Cash, mm-hmm. notamment. Et Chris Offutt était ému aux larmes et il s'est mis à chanter lui aussi. Et évidemment, c'est... Donc, merci. Pour
oui. Alors, donc un disque qui vient de sortir, qui est intéressant. Et on est entre le Kentucky et le Colorado. Tu as dit, hein, Kentucky,
ah bah voilà.
Kentucky, c'est Chris Offutt. Et on va arriver dans le Colorado de Benjamin Whitmer. Et entre le Kentucky et le Colorado, il y a l'Arkansas. Et donc, la capitale de l'Arkansas. Ça, c'est la ville de Little Rock et voilà et donc j'ai pensé à cette chanson parce que Benjamin Whitmer évoque Johnny Cash, hein, dans son livre, et notamment une chanson consacrée au cowboy, puisque là on va rencontrer un personnage chez Benjamin Whitmer, un cowboy, hein, qui est quelqu'un qui pratiquait notamment le rodéo. Alors donc, des points communs entre Offutt et Whitmer, tu l'as dit, hein, ce n'est pas l'Amérique, les États-Unis, des grandes métropoles, on est dans le rural, dans la campagne. Là, le Colorado, bon, ben, des images, hein, qui font rêver, des images de western, de cow-boy, etc. Et thématiques assez parallèles, en fin de compte, il y a des questions de drogue, il y a des questions de pollution, ben, alors là, c'est du costaud, puisque c'est le plutonium, oui. Hein, une usine de traitement de plutonium perdue dans la campagne, avec des conséquences en termes de pollution sur l'environnement, mais aussi sur les gens qui y travaillent et qui y vivent, désastreuses. Et puis une disparition, celle de Randy, hein, un fils de ce cow-boy, on va dire ça, qui a pratiqué le rodéo, qui est bien déglingué et qui travaille dans cette usine de traitement de plutonium. Le cow-boy, je recherchais son nom, c'est Hack Turner. Hein, une famille, la famille Turner, assez particulière, avec beaucoup de personnalité chez les frères, chez le père. Et donc les deux enfants, aussi une fille, Nat, et donc ce Randy qui est un peu plus jeune, qui a 14 ans, et qui voilà,
il est disparu, donc on ne retrouve que le vélo,
voilà,
au départ, en tout cas.
Et alors là, c'est un roman, hein, c'est quasiment 600 pages, et on se laisse entraîner aussi, mais là j'ai envie de dire c'est plus l'atmosphère que l'histoire, quelque part. Il y a quelque chose chez Benjamin Whitmer, qui est un petit peu hypnotisant dans son écriture. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Je pense qu'on l'avait découvert il y a quelques années avec Pike. Je crois qu'il y a il y a 5 romans. Il y a eu Pike, Cry Father, et puis il y a eu Évasion, Les Dynamiteurs, dont celui-là, Dead Stars, est peut-être le point d'orgue, mais c'est à la fois, il est absolument, enfin c'est un peu banal à dire, mais il est au sommet face de son art, comme tu dis, c'est presque 600 pages, elle se dévore, il y a une atmosphère, il y a effectivement des personnages extrêmement forts, mais il y a une atmosphère extraordinaire, une écriture, enfin bon, c'est vraiment c'est du très grand art quand même, hein, voilà. Et en même temps, ça remue, enfin ça secoue, c'est aussi, comment dire, il y a ça, je reviens là-dessus, Benjamin Whitmer, il disait dans une interview, la plupart des livres américains viennent soit de New York City, soit de Los Angeles, deux endroits qui, d'après Whitmer, ne représentent pas la majorité de l'Amérique, celle-ci est coincée au milieu, dans le centre, où les gens se sentent réellement déconnecté de ses centres de pouvoir. Et c'est complètement... il écrit complètement là-dessus. Il sait cette vie-là. Il est lui-même... je crois qu'il était né dans l'Ohio. Il a eu une adolescence...
oui, c'est ça.
Une adolescence très, très rude, enfin, sans eau courante, électricité, en éleveur de bétail et tout, mais il n'y avait pas de télé, mais il y avait plein de livres, il y avait les balades dans la forêt d'à côté, donc pour lui, c'était merveilleux. Mais, et puis, comme il ne mâche pas ses mots, Whitmer disait qu'il avait, quand il était adolescent, il y avait deux choix qui s'offraient à lui, c'était braqueur de banque ou écrivain. Et comme braqueur de banque, c'était dangereux, il a choisi écrivain, disait-il en souriant. Mais il a fait énormément de boulot. Quand il parle du monde ouvrier, il sait de quoi, ou du monde rural, il sait de quoi il parle. L'intérêt aussi de Dead Stars, parmi plein d'autres choses et une qualité littéraire éblouissante, c'est aussi que c'est le monde de ce centre de l'Amérique, c'est le monde, il y a le monde rural et en même temps, à côté de ça, il y a le monde ouvrier aussi, puisqu'il y a cette usine de la petite ville de Plainview où l'usine, elle embauche tout le monde, donc elle a un pouvoir, ceux qui la dirigent ont un pouvoir sur toute la population. Mmh. Et il y a, comme tu le dis, les extrêmes dangers liés à la toxicité de ce qui s'y fait et de ce qui s'en échappe. Et c'est,
avec une question, Hervé, celle de... Voilà, l'idée, c'est de travailler coûte que coûte, d'avoir un emploi, oui. de gagner sa vie. Et donc, quand on travaille dans une entreprise comme ça, dès que quelqu'un commence à poser des questions, à émettre quelques doutes sur le bien fondé de ce qui se fait, eh bien, il est quasiment banni par ses collègues dans la ville. Et c'est ce qui arrive un peu à Hack, puisqu'il a...
Il a
échangé avec un journaliste qui enquête sur cette pollution au plutonium, mais on préfère que tout ça reste dans l'ombre pour continuer à travailler. C'est vraiment un paradoxe de nos sociétés.
Ben, c'est pour ça, ça se passe en... je crois que Whitmer situe l'histoire en 1986,
oui.
Mais en même temps, il est bien évident que c'est aussi une problématique qui reste très actuelle, et effectivement, il campe ce personnage, moi, ce personnage de Hack, comme les personnages de Whitmer, il n'est ni... il n'est pas blanc ou noir, c'est pas un gentil non plus. On aimerait, comme le dit au moment Nat, ou comme le dit son frère Whitey, on n'aimerait pas forcément. On pourrait avoir eu envie d'être élevé ailleurs, d'un autre. Mais en même temps, il est très attachant comme personnage. Et il ne cesse, j'aime cette expression, il ne cesse, dit Whitmer, de manger sa colère.
J'ai envie de dire ses colères, Hervé, parce que la colère, justement, par rapport à cette usine, mais aussi par rapport à sa famille, à son père, et puis à la mère de ses enfants qui est partie, puisque c'est aussi une particularité. Il élève seul ses enfants, et la disparition de Randy, c'est un drame.
C'est un drame complet, bien évidemment.
Donc il lui donne encore plus mauvaise conscience, puisque il est parti un soir dans une soirée en laissant ses deux enfants, quand même 14 et 18 ans, et c'est au retour de cette soirée qu'il se rend compte que son fils a disparu. Et vraiment des problématiques aussi sur les questions de parenté, parentalité, etc. Vraiment très riche, très riche.
Une constante de l'œuvre de Benjamin Whitmer depuis Pike, depuis Cry Father, on sait que voilà, les rapports avec le père, les rapports de familiaux sont extrêmement importants. Voilà, bien sûr.
Alors, Hervé, on dit souvent que la première phrase d'un roman est clé, est importante. Alors, donc, effectivement, ce roman débute... alors, je ne prends pas en compte le prologue, je prends en compte le premier chapitre. On est le 7 septembre 1986 à 18h02. Voilà, je lis. « S'il est une chose certaine, c'est qu'il n'existe aucune fête à laquelle on se rend seul, dont on ne repart pas en se sentant plus mal qu'on ne l'était en arrivant. » Je t'avoue que cette phrase...
18h02.
Oui, cette phrase, je l'ai relue plusieurs fois. Alors, elle est intrigante parce que il y a une double négation qui complique en fin de compte la. J'ai même envie de dire une triple qui complique sa compréhension. Alors, est-ce que toi, je sais que tu connais bien Benjamin Wittmer, tu connais aussi le travail du traducteur,
Jacques Maillot,
toi, professionnellement,
je n'ai pas corrigé ce livre, donc
oui. Mais en tant que
une découverte de lecture.
Voilà, en tant que correcteur, ce type de double négation, est-ce que ça vient de l'auteur et donc le traducteur reprend.
Ah oui, je pense que ça vient de l'auteur, Jacques Maillot, essayant de le rendre au mieux tout en évidemment l'adaptant de la langue française. Mais oui, je pense que c'est effectivement une phrase qui questionne parce que il y a, comme tu le dis, même oui, il y a une triple négation. Ça rend autre chose que si on disait quand on arrive seul dans une fête, on en repart plus triste qu'on était arrivé.
C'est ça.
Pas exactement pareil. Ouais. Mais c'est aussi intéressant par rapport à la phrase qui suit immédiatement, qui elle est d'une simplicité, de construction. C'est la raison pour laquelle Acteur Noir se cache dans la salle de bain du sous-sol.
Voilà.
Qui est une phrase, alors là, très 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 courte et très incisive, disons. Je pense que c'est aussi un des plaisirs de Benjamin Wittmer, c'est-à-dire que ce grand lecteur est aussi quelqu'un qui c'est à la fois quelqu'un qui peut avoir une écriture très cache et en même temps qui est très attentif à des effets stylistiques. Donc voilà.
Ah oui, mais je trouve que c'est impressionnant. Hein. Effectivement, ces deux phrases, elles montrent deux aspects de son écriture. Et c'est pour ça que je disais que Benjamin Wittmer est un auteur emblématique des éditions Gallmeister et qui, il y a quelques années, là, en 2015, avait lancé une collection néo-noire, justement, en mettant en avant Benjamin Wittmer pour évoquer des auteurs qui prennent la relève du roman noir américain traditionnel.
Oui, il y avait aussi un autre qui a été très remarqué, c'était Jay Kingson.
Voilà.
Et donc,
Oliver Gallmeister a expliqué à l'époque qu'ils ont en bagage l'héritage d'un siècle de roman noir qu'ils mixent sans complexe avec Shakespeare et quelques décennies de culture populaire. Ils jouent avec les codes du genre.
Culture, oui, complètement.
Ouais. Les références jongles. Ouais.
Ces deux phrases réunies, ça résume bien ça. Oui, tout
voilà,
à fait.
Et c'est donc vraiment alors cette collection néo-noir, ben voilà, elle a arrêté en tant que telle et on retrouve ses auteurs toujours chez Gallmeister, donc notamment Benjamin Wittmer, mais on est vraiment dans quelque chose de particulier et Benjamin Wittmer, c'est une découverte de Gallmeister, Hervé.
Complètement. Et puis c'est effectivement une très très belle découverte. Je pense que voilà, faut mettre ça absolument dans ses bagages d'été.
Ah oui. Tu l'as croisé, toi, Benjamin Wittmer, dans un festival?
Oui, je l'ai croisé. J'ai eu la chance de faire une des premières rencontres avec lui à Quai du Polar, avec lui et Nicolas Mathieu, qui venait de sortir son premier roman, qui n'était pas le Goncourt que nous connaissons, c'était aux animaux la guerre, et, mais tu as aussi rencontré Arras.
Oui.
Et voilà, et il se, comme par hasard, ces deux-là se sont beaucoup appréciés.
Il y a eu quelque chose, parce que bon, l'éditeur décrit Benjamin Whitmer, qui est né en 1972, hein, qui vit dans le Colorado avec ses enfants, où il passe la plus grande partie de son temps libre à hanter les librairies, les bureaux de tabac et les stands de tir des mauvais quartiers de Denver. Donc, quelle personnalité, alors, quand tu l'as rencontré
C'est intéressant, parce que si vous retrouvez, il y a eu un numéro de la revue que faisait François Bunel, je crois, America, qui était consacré à la violence, aux États-Unis, bien sûr. Et il y avait le fameux texte de Stephen King sur les armes, mais il y avait aussi un long article de Benjamin Whitmer sur la violence, le Colorado, très intéressant, racontant l'histoire de comment cet État s'était constitué, sur le corps de ses premiers habitants, indiens. Et aussi, une chose que Benjamin Whitmer disait très vite, c'est-à-dire que lui, et ça va avec cette citation dont tu parles, de hanter aussi les stands de tir que les librairies, c'est-à-dire que Whitmer avait dit, choquant sans doute quelques personnes, ou en tout cas avait dit que lui, il garderait chez lui des armes tant que les policiers qui venaient de notamment, il y a eu l'affaire Rodney King, d'autres affaires de violence policière très médiatisées, et tant que les policiers se comporteraient comme ça, lui voulait être armé. Voilà.
Donc nous recommandons particulièrement Benjamin Whitmer, Dead Star, chez Gallmeister. Nous l'avons traduit de l'américain par Jacques Mayos. Le livre est aussi très présent dans ce roman, et y a notamment le père de Hank Turner, qui a toujours un livre à la main, et c'est d'ailleurs toujours surprenant. Nous recommandons aussi Hervé, bien sûr, Chris Offutt, Les Fils de Chef.
D'ailleurs, c'est ça, Benjamin Whitmer qui a un peu un... qui n'a pas le fini, enfin, je ne sais pas, je n'ai pas hack, on ne fait que le deviner, après. Mais enfin, bon, Benjamin Whitmer, qui a un physique, voilà, c'est pas Dustin Hoffman dans Les Chiens de Paille, quoi, enfin, voilà. Mais en même temps, c'est aussi quelqu'un qui est, qui est vraiment, depuis l'enfance, féru de littérature absolue, voilà.
Alors donc, Chris Offutt, Les Fils de Chefty, et nous allons signaler que c'est traduit de l'américain par Anatole Ponce-Robeau. Et puis donc...
Également un très bon traducteur, voilà. Gallmeister s'est bien s'entouré.
Voilà, et puis donc, la collection Totem, d'autres livres, Gallmeister, on peut y aller les yeux fermés. Voilà, c'était Variation en Noir dans Variation, une émission mensuelle de Radio PFM, réalisée en collaboration avec 813, l'Association des Amis des Littératures Policières, en particulier avec Hervé Delouge. Donc Hervé, au revoir, de très bonnes lectures en noir ou pas.
Mais au revoir Guy, au revoir Bernard, au revoir à tout le monde. Passez un bel été,
voilà.
Faites de belles découvertes.
Voilà.
Hervé et autres.
Rendez-vous, Hervé, on peut déjà prendre date, rendez-vous après l'été.
Eh ben absolument, avec grand plaisir. Je crois qu'il va y avoir besoin de lire et d'en parler de plus en plus. Voilà.
Très très juste, Hervé. Allez, au revoir à toutes et à tous.